Donc, puisque nous avons Richard Desnolan qui vient d'arriver, je vous le présente puisque lui ne bénéficie pas de ces belles, de ces belles présentations très officielles. Donc, effectivement, oui, en tant qu'un grand ancien qui est effectivement plus qu'à sa place dans cette table ronde qui va débuter concernant l'héritage de Lovecraft. Alors, l'héritage de Lovecraft, ça peut être pris dans de multiples sens. S'il s'agit de l'héritage financier qu'a laissé Lovecraft à ses descendants, c'est pas considérable. Par contre, l'héritage de l'imaginaire lovecraftien est absolument considérable. Je commencerai par une petite remarque, un petit hommage qui va faire bondir, je pense, quelques personnes dans cette salle. J'espère qu'elles ne bondiront pas trop haut, pas casser le plafond. C'est rendre hommage à Auguste Derleth. Parce que pendant très longtemps, Derleth a servi, et sert encore un peu, de tête de turc du monde lovecraftien. Il est présenté comme quelqu'un qui aurait essayé de récupérer Lovecraft, de l'exploiter, etc. Bon. La réalité est tout autre. Derleth a créé les éditions Arkham House qui ont permis une véritable reconnaissance de Lovecraft, a édité des recueils de nouvelles de Lovecraft dans de bonnes conditions, on peut le dire, même si des travaux aujourd'hui ont permis d'obtenir des textes encore meilleurs, a publié des recueils de lettres, a toujours milité pour la reconnaissance de Lovecraft. Ce qu'on peut lui reprocher, à juste titre, c'est d'avoir essayé d'utiliser un petit peu le nom de Lovecraft en écrivant lui-même des textes qu'il co-signait Derleth Lovecraft. Oui, il y a eu une petite tentative de récupération de Lovecraft, mais qui, je pense, n'était pas quelque chose de nullement mal intentionné. Il s'agissait très certainement de la part d'Auguste Derleth, qui avait ses qualités propres, d'une forme d'hommage. Je pense qu'on a été assez dur avec Derleth, qui ne le méritait pas, alors que, bien sûr, personne dans cette salle ne contestera qu'il faut être très dur avec la Lions Prague de Caen concernant l'œuvre de Robert Howard. Mais c'est un autre débat. Pour Derleth, d'ailleurs, j'ai envie de donner tout de suite, avant d'entrer dans l'héritage actuel, la parole à Richard Nolan, parce que je pense que tu peux nous parler un petit peu plus de la personnalité de Derleth, de qui est ce personnage, et j'espère que tu es d'accord avec moi, pourquoi ce n'est pas c'est plutôt un turiféraire de Lovecraft qu'un exploiteur.
Oui, alors Derleth, c'est un auteur qui a commencé une carrière littéraire en solo, bien avant de connaître Lovecraft. Dans les années 30, il a commencé dans Wiertel. C'était à la fois un auteur qui avait une carrière dans le fantastique et dans le roman régionaliste. Parce que, en fait, parmi les best-sellers de Derleth, il y a ces romans de sa ville du Wisconsin et qui ont fait des ventes dont certaines même dépassaient pendant longtemps dépassaient celles de ses collaborations posthumes avec Lovecraft. Et Derleth, il fait partie de ce cercle des Lovecraftiens de la première heure qui ont commencé à correspondre avec le maître de Providence. Il y a Bloch, il y a des gens comme ça. Et Derleth, il faut vraiment le reconnaître ça, c'est que sans lui, il est probable que Lovecraft aurait disparu de la circulation parce qu'il aurait fait partie de ces auteurs des pulps des années 30, dont beaucoup auraient mérité un meilleur sort que ceux qu'ils ont eu. Et Lovecraft a évité, il y a eu deux écueils qui ont été évités de justesse. C'est la destruction de ses archives, parce que ses archives, il ne faut pas oublier, quand il est mort en 1937, elles ont fini dans la rue. Et s'il n'y avait pas Robert Barlow qui était passé, qui était complètement retourné par la mort de son ami et tout comme ça, et qui a découvert tout ce bazar dans la rue, ça aurait été perdu. Donc une partie de ses archives, ses archives ont été récupérées après par Arkham House et Derleth. Et si on peut lire beaucoup de correspondances, si beaucoup de choses ont été publiées, c'est déjà parce que ça a été sauvé dans la rue. Mais c'est vrai qu'au départ, Derleth et Donald Vandrei, parce qu'il ne faudrait pas oublier le deuxième créateur d'Arkham House, qui était lui aussi un auteur fantastique et de science-fiction, des années 30, qui était, dont on connaît le cimetière de l'effroi, qui était le numéro 1 de la collection Angoisse au fleuve noir, et qui est un récit lovecraftien. Et donc, il y a Derleth et Donald Vandrei, qui ont créé Arkham House. Eh bien pour, c'est ça, pour sauver d'abord, pour publier Lovecraft en hardcover, parce que Lovecraft était un auteur qui n'était publié qu'en pulp. Donc, ce qui fait qu'il n'avait pas, quasiment pas d'existence dans les bibliothèques américaines, dans les librairies, parce qu'une fois que le numéro de pulp s'était vendu, on passait au suivant, et puis voilà. Et donc, il a donné une chose essentielle à Lovecraft déjà, c'est d'avoir des vrais livres, des livres qui se conservaient et qui n'étaient pas de la littérature en magazine qui disparaissait d'un mois sur l'autre. Et Derleth, je pense que oui, c'est vraiment il y a quand même de l'hommage au départ. Et puis quand il disait que quand c'est les textes co-signés Derleth et Lovecraft, c'était toujours bien précisé que c'était parce qu'il avait trouvé un morceau de texte ou des notes. Parce qu'il a écrit Derleth, faut quand même pas oublier qu'il a écrit des choses sous son nom à lui tout seul, des histoires lovecraftiennes. Mais il voulait, c'était aussi une espèce d'honnêteté quand même, parce qu'il a toujours plus ou moins utilisé des notes et des fragments de texte qu'il a remis à sa sauce, c'est sûr, mais c'est quelqu'un qui a eu une importance et pour Lovecraft et après pour beaucoup d'autres auteurs à qui il a mis le pied à l'étrier, comme Brian Lemley, Ramsey Campbell, des gens comme ça. Arkham House, ça a été une grande aventure d'édition qui a coûté beaucoup d'argent certaines fois à Derleth, il ne faut pas l'oublier. Les best-sellers, ils sont venus bien, bien plus tard avec les ventes en poche à d'autres éditeurs. Mais au départ, Arkham House, c'était financièrement le couteau sous la gorge tous les ans. Il avait vraiment du mérite. Voilà.
Il réussit aussi une chose assez, assez émouvante. Alors je ne connais pas exactement, peut-être qu'autour de la table certains connaissent le cheminement de ce qui s'est passé, mais deux ou trois volumes de Arkham House se sont retrouvés faire partie de cette collection de livres de poche spécialement imprimés pour l'armée américaine qui possède un format oblong. C'est dommage, j'aurais dû en amener pour les montrer. Voilà, c'était pour mettre dans les poches des tenues de combat des GIs. Et les GIs pouvaient se détendre le soir dans leur campement ou leur tranchée en lisant des nouvelles de Lovecraft et d'autres recueils de nouvelles fantastiques qui étaient publiées donc, pendant la guerre ou juste avant la guerre aux États-Unis. Et ça, c'est assez fort parce qu'on a des échos. En parlant d'héritage, c'est assez juste. Des Français ont découvert Lovecraft en lisant ses nouvelles dans ces petites collections de poches américaines qui, en France, étaient très courantes à l'immédiate après-guerre. On en trouve encore des fois dans les brocantes. Les amateurs de brocantes le savent. On trouve encore de ces livres américains très spécifiques avec un format oblong qui étaient des reprises en livres de poche gratuites qui étaient distribuées aux soldats d'œuvres parues chez des grands éditeurs et des moins grands, Arkham House, par exemple. Je ne sais pas quel était le cheminement, mais en tout cas, il existe quelques recueils comme ça venus d'Arkham House qu'on trouve en livre de poche. Voilà, tout ça pour dire que le Derleth, c'est bien autre chose que ce personnage qui a un petit peu exagéré, paraît-il, en prenant en se prétendant qu'il co-signait avec Lovecraft, ce qu'il a toujours fait avec relative discrétion, je pense aussi. Et aussi, on peut aussi signaler que pour ceux qui veulent mieux connaître ce personnage, vont bientôt paraître un recueil de nouvelles policières, les enquêtes de Solar Ponce, qui sont dans la lignée plutôt de Sherlock Holmes, on va dire, et qui ont fait beaucoup pour la gloire de Derleth chez les amateurs de romans policiers aux États-Unis et qui, chez nous, est très peu connu. Mais peut-être que là, le public français pourra découvrir ce qui fait une véritable originalité de Derleth, effectivement, plutôt que ses imitations de Lovecraft. Mais alors, bon, imitation de Lovecraft. Alors, l'héritage de Lovecraft, donc, c'est pas seulement l'admiration qu'il suscite, c'est le fait qu'il a encouragé un très grand nombre d'écrivains, dont certains ont suivi leur voie devenue tout à fait personnelle. mais qui se sont souvent, par amitié, par amusement, par plaisir, par jeu, qui ont souvent intégré des aspects de ce qu'on appelle la mythologie lovecraftienne dans leurs écrits, mais qui ont ensuite souvent pris leur envol et écrit des textes dont le rapport avec Lovecraft n'est plus du tout évident. Alors là, peut-être que Christophe Thill peut nous parler de cette espèce de basculement qu'il y a lieu, le passage, on va dire, du premier cercle, c'est-à-dire des amis qui correspondent avec Lovecraft, qui écrivent un peu parfois, au développement d'une sorte, alors là, d'exploitation d'un aspect de l'imaginaire lovecraftien, ce qui est différent, hein, quand ça commence à devenir un peu, pas une industrie, mais enfin, quelque chose d'assez systématique. Hein.
Bah, je crois que c'est un peu un effet pervers, j'ai envie de dire, de la séduction opérée par l'univers lovecraftien, par cette espèce d'imagination foisonnante, de cités maudites, de monstres avec des noms pas possibles, de livres interdits. Et ce qui était au départ un jeu entre une bande d'amis, qui étaient tous des auteurs, qui étaient Lovecraft et sa bande, on peut dire, sa bande de correspondants, qui était que chacun s'amusait à glisser dans ses propres nouvelles les créations des autres, ce qui aboutit à une espèce de création collective. Évidemment, à partir du moment où Lovecraft lui-même n'était plus là, et puis où petit à petit son cercle d'amis immédiats s'est dissipé, ils sont décédés, etc., tout ça a pris un sens un peu différent, et ce sont davantage des contacts indirects, c'est-à-dire des jeunes gens, des jeunes auteurs, qui étaient des fans dans leur jeunesse, puisque ce qu'on constate toujours encore aujourd'hui, quoi, c'est que la littérature lovecraftienne, c'est quelque chose en général dans lequel on tombe quand on est jeune, à l'âge du lycée souvent, et on est séduit par tout cet aspect. J'ai envie de dire, il y a à boire et à manger pour tous les âges, c'est-à-dire on est séduit par certains aspects quand on est plus jeune. Bon, ça peut être dans certains cas aussi en rapport avec la pratique du jeu de rôle. Et puis au fur et à mesure qu'on mûrit, souvent, on apprend à y voir d'autres choses, peut-être un peu plus riches, un peu plus littéraires, que la seule fascination du grand monstre avec des gros tentacules. Voilà, en tout cas, c'est, à mon avis, c'est un peu le processus qui s'est déroulé comme ça, d'un élargissement du cercle. Et puis, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il y a quelque chose pour moi de l'héritage de Lovecraft qui dépasse un peu ce seul jeu d'utilisation ou de création de monstres ou de cités, de pays, de livres interdits dans la veine directe de HPL, qui est plus au niveau de l'esprit, je dirais, plus que de la lettre. Être Lovecraftien aujourd'hui, si tant est que ça ait encore un sens, j'ai envie de dire que c'est plus avoir envie d'évoquer une certaine atmosphère, ce qui peut se faire par des moyens très différents que ceux que Lovecraft a employés. Ça peut se faire dans des univers entièrement qu'on qualifierait de science-fiction aujourd'hui, qui ne sont pas tellement ce que Lovecraft lui-même aimait pratiquer. On a dit, pour prendre un exemple, on a dit que Alien était un film lovecraftien. Bon, ça peut paraître absurde à quelqu'un qui pense au visage de Cthulhu enfoui sous la mer et plongé dans ses rêves. Mais quand on creuse un petit peu, on se dit que oui, il y a quelque chose au niveau de l'esprit.
Peut-être qu'un un aspect qu'on va être obligé, avec plaisir, d'évoquer, qui semble paradoxal, c'est celui de l'image, celui de la figure, celui de la représentation. Parce que pour qui, dans cette salle, je pense que vous êtes assez nombreux à avoir lu Lovecraft, quand je dis lu Lovecraft, c'est effectivement des textes de la main du maître. On est tout de même assez vite frappé par le fait que, même s'il y a des descriptions, il y a des descriptions, il ne faut pas s'imaginer que rien n'est décrit dans Lovecraft, il y a parfois des détails extrêmement précis qui sont donnés dans certaines circonstances. Dans l'ensemble, les mots qui reviennent le plus souvent, c'est indescriptible, indicible, inconcevable, etc. Alors, première remarque, dans Huertels, hein, où paraissait une grande partie de ces textes, il y avait des illustrations. Elles sont dans Huertels, ces illustrations n'ont pas toujours été... D'ouverture, oui, étaient intéressantes, mais les illustrations intérieures n'ont pas toujours été si intéressantes que ça. Et dans le cas de Lovecraft, hein, bon, dans Astounding, dans l'abîme du temps et les montagnes hallucinées sont parues dans Astounding, il y a eu quelques tentatives d'illustration par un grand dessinateur de pulps qui était intéressante, mais qui faisait vraiment là tendre Lovecraft vers, euh, vers la science-fiction, le côté monde perdu, science-fiction du monde perdu. Mais enfin, c'est un paradoxe. Aujourd'hui, Lovecraft est, en tout cas, le nom de Lovecraft est très souvent associé à des scènes, à des images représentées. C'est pourtant le, non pas le contraire, mais ça semble en tout cas en contradiction ou en décalage avec la manière d'écrire de Lovecraft. Alors, comment peut-on expliquer cette connexion entre le monde visuel et l'écrit lovecraftien? Je suis obligé de te passer la parole.
Je suis pas illustrateur, mais mais j'ai travaillé avec un illustrateur récemment là qui est là-bas, si vous voulez le voir, qui s'appelle Nicolas Fructus, qui a illustré ce bouquin là, qui est tiré de l'œuvre de Lovecraft. Et oui, je vais rebondir sur des choses que vous avez tous les deux dit. Lovecraft, je pense qu'il est, son héritage, il tient d'autant plus qu'une grande partie de ce qu'il a décrit est indicible et indescriptible, comme tu dis. Il fait partie de ce petit groupe d'auteurs qui a posé des bases d'un univers gigantesque, précisément parce qu'il ne nous l'a pas décrit, en fait. Il a décrit des tout, il a envoyé des petits flashs comme ça dans certains endroits d'un univers qu'il avait peut-être en tête ou peut-être pas. Je suis même pas sûr qu'il ait vraiment, lui, eu un panthéon, par exemple, des dieux lovecraftiens. D'autres gens les ont inventés après, le panthéon, mais je suis pas sûr que lui, il avait très bien structuré cette chose-là, et tant mieux s'il l'a pas fait, je pense. C'est vraiment quelqu'un comme ça qui a lancé des éclairages comme ça sur un univers. Bon, moi, je suis pas un grand spécialiste de Lovecraft, je suis devenu pendant 6 mois parce que j'ai coordonné ce bouquin un peu. Kadath, donc pareil, c'est un bon exemple de ça. Kadath, c'est un mot qui apparaît trentaine de fois dans l'œuvre de Lovecraft, je pense, disséminé dans des endroits très très différents dans l'œuvre. Et quand l'éditeur là, nous a demandé de décrire cette ville mythique qui était Kadath, il n'avait même pas réalisé, lui, qu'elle était quasiment pas décrite dans l'œuvre de Lovecraft. Il y a dans Kadath, Lovecraft décrit un habitant, Seigneur Latotep, il y a une colonne d'esclaves noirs dans des halls titanesques, et c'est tout. Il n'y a pas de ville autour, il n'y a rien. Et voilà. Donc nous, on s'est amusé à l'inventer. Et c'est ce que je disais, Lovecraft, il fait vraiment partie de ces gens qui inspirent très facilement des générations et des générations d'auteurs. Tu as parlé du jeu de rôle, il y a deux jeux de rôle majeurs qui ont une pérennité incroyable. C'est un qui est tiré de Tolkien et un qui est tiré de Lovecraft. Hein. Et donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui offre comme ça un champ infini à exploiter, et tant mieux si les gens le font. Alors évidemment, tout le monde, on accuse souvent les gens de plagiat ou de récupération ou de trahison ou de choses comme ça. Mais bon, c'est dommage aussi si les gens ne s'emparent pas des œuvres des autres pour continuer l'histoire. Il ne faut évidemment pas dire que c'est Lovecraft qui les a écrites quand ce n'est pas Lovecraft qui les a écrites, évidemment. Bien qu'on fait un peu ça dans le canal.
Une fois qu'on voit écrit...
Ah, c'est d'après l'œuvre de Lovecraft, mais il y a un quart des textes sont peut-être de Lovecraft, peut-être pas, vous verrez si vous le lisez. Et donc voilà, et alors pour ce qui est de l'illustration, alors c'est intéressant la piste que tu lances, c'est très difficile à illustrer Lovecraft, je pense. Hein. Il faut vraiment un illustrateur qui s'empare encore une fois de la chose et qui le revisite à sa manière, parce que comme tu le disais, il y a quelques descriptions, mais finalement, les meilleurs moments de Lovecraft, c'est là où il n'y a pas trop de descriptions, et où c'est juste une ambiance assez difficile à visualiser. Donc vous verrez, hein, les illustrations de Nicolas Fructus sont aussi en exposition en bas. Là. C'est fou, quoi. Il s'est emparé de la chose et il a revisité complètement. Et il y a un truc intéressant sur l'aspect illustration dans ce travail-là aussi. Hein, c'est que... Donc, Nicolas, il s'est emparé de nos textes et il a fait ce qu'il voulait, par exemple. Et c'est très bien, ça. C'est tout, on retrouve ça dans plein d'adaptations de Lovecraft. Les gens lisent Lovecraft et puis à la fin, ils font un peu ce qu'ils veulent avec. Et tant mieux, il y a des grandes libertés qui sont prises. Mais toujours, on retrouve l'inspiration première du maître de Providence, qui est vraiment son univers à lui, qui est là et auquel on ne peut pas échapper, en fait, je pense. Quand on essaie d'adapter Lovecraft, il y a quelque chose auquel on ne peut pas échapper, une ambiance vraiment très particulière et très, très omniprésente. J'attends de voir le film qui va sortir l'année prochaine, qui sera un blockbuster avec beaucoup d'impatience mêlée de crainte. Ça dépend si on en voit une dans le noir au fond là-bas, ça peut aller.
F- fait, effectivement, ce qui marque, ce qui est assez étonnant, c'est cette capacité dans des textes de Lovecraft, et peut-être aussi la personnalité de Lovecraft. Hein, ça doit jouer aussi quand on commence à s'intéresser un petit peu plus près au personnage. C'est que ça sollicite, ça pousse à faire quelque chose, ça évoque des choses, ça inspire ou ça libère peut-être plutôt. Les écrivains et les illustrateurs, ce qui semble paradoxal. Il leur donne envie d'écrire eux-mêmes quelque chose ou de dessiner eux-mêmes quelque chose, alors que ses propres textes passent leur temps à dire que quelque part, ce n'est pas possible. Bon, et ça fonctionne encore avec un recul, quand même. Maintenant, ça fait un certain nombre de décennies que le phénomène Lovecraft fonctionne et que finalement, il y a une sorte de communauté est un terme excessif, mais un intérêt général, une sorte de galaxie qui tourne autour de Lovecraft, de ses écrits, de sa personnalité, des nombreuses suites, imitations ou tentatives d'adaptation qui ont eu lieu. Et tout ceci continue à être extrêmement bouillonnant. On a parlé tu as évoqué Tolkien aussi à ce niveau-là. La comparaison est parfaitement juste. Alors au niveau des jeux de rôle, évidemment, notamment, permettrait une différence d'appréciation, c'est que j'ai l'impression que le monde de Tolkien me semble. Alors les Tolkieniens de la salle vont hurler. T'es même un petit peu renfermé sur lui-même. C'est un monde d'érudition dans le monde tolkienien. Alors que le monde des Lovecraftiens, au sens très très large du terme, est étonnamment beaucoup plus ouvert. Il va de textes qui sont de la science-fiction pure jusqu'à des textes qui sont du fantastique le plus évanescent, en passant par la poésie. Et des fois, l'allusion lovecraftienne, elle est au détour d'une phrase, elle est dans un nom de lieu, dans un nom de personnage, dans un nom de créature. Mais on voit le nom de la créature évoqué, le lieu, mais on ne peut pas dire qu'une image nous vient immédiatement à l'esprit précise. On n'a pas une image précise. Ça nous fait penser à Lovecraft. Alors après, on fait un peu ce qu'on veut. Il n'y a pas du tout cette... la précision, je dirais, hein, du monde de Tolkien qui est construit avec une grande précision, alors que, en effet, je pense aussi, comme toi, que l'imaginaire lovecraftien est un imaginaire beaucoup plus libre. Et lorsque Lovecraft décrit des dieux ou des extraterrestres qui sont des extraterrestres ou réciproquement comme l'on voudra, ou peut-être toutes sortes de créatures, il n'a pas dans sa tête un panthéon parfaitement constitué. Ça, ce sont des choses qui viennent après, qui s'ajoutent. Et d'ailleurs, il y a des travaux à faire sur la manière dont différents écrivains ou différents illustrateurs ont essayé d'établir, eux, des canons lovecraftiens au-dessus de Lovecraft, en disant, ben voilà, Toulouse est comme ça, il devrait être comme ça. Et on dessine Toulouse. Et puis après, on s'amuse à comparer avec ce que les autres illustrateurs ont dessiné, soi-disant que Toulouse aussi. Et on peut s'amuser à regarder ce qu'il peut y avoir de commun dans ces images. Et parfois, on a la surprise de voir que c'est l'image la plus infidèle qui est la plus frappante. Pourquoi ? Peut-être parce qu'elle a réveillé la créativité de celui qui l'a faite. Il n'a pas essayé de mettre le bon nombre de tentacules, mais ça lui a par contre évoqué quelque chose. Et il y a un phénomène qui me paraît très différent du phénomène du monde tolkienien. Enfin, peut-être que les tolkieniens seront furieux. Olivier, peut-être, je voudrais te lancer un petit peu à propos de l'image, sur la bande dessinée d'inspiration lovecraftienne.
Oui, je voudrais signaler pour ceux qui par hasard ne le connaîtraient pas, il y a un livre absolument exceptionnel, c'est une biographie de Cthulhu qui est fait par Patrick Marcel, qui s'appelle « Les nombreuses vies de Cthulhu » au mouton électrique, et ça, c'est un vrai tour de force, d'érudition et puis de bonheur de lecture, parce que là, donc, on a une mise en scène, comme dans les autres livres de la collection, de Cthulhu, mais comme ça, c'est un héros, si on peut dire, dont on établit la biographie, qui est fictive évidemment à 100%, mais qui repose que sur des sources écrites par Lovecraft et les auteurs du premier cercle, parce que Patrick Marcel dit dans sa préface qu'il ne s'est pas lancé avec la totalité, l'exploration de la totalité des récits apocryphes, parce que là, ce n'était pas un volume qu'il fallait, c'était l'Encyclopédie Universaliste. Donc il a un peu il a centré ça sur le premier cercle des amis de Lovecraft et des continuateurs du mythe, plus certains cas, certains autres auteurs, et c'est un livre vraiment exceptionnel parce que on apprend plein de choses, et puis si vous voulez tout savoir sur la descendance de Cthulhu, sur la vie et la descendance de Cthulhu, c'est vraiment un livre absolument à lire, parce que puis c'est très bien écrit en plus, donc très très bien. Bon, pour l'histoire de la BD, en fait, moi Lovecraft, je l'ai utilisé, l'univers lovecraftien. Je m'en suis servi pratiquement une demi-douzaine de fois, et c'est pour bien montrer, à partir de mon petit exemple personnel, comment ça prolifère comme les champignons, ces trucs-là. Comment on peut Lovecraft apparaît, enfin le mythe de Cthulhu peut apparaître au détour d'histoires qui peut-être des fois n'étaient pas parties pour être avec, et comment on peut s'en servir tout le temps. Une des premières nouvelles que j'ai publiées, ben, comme tout bon lecteur de fantastique des années 70, complètement confit dans Lovecraft et compagnie, et rêvant que d'une chose, c'est d'écrire quelque chose qui ressemble vaguement à ce qu'aurait pu écrire notre maître à tous à l'époque. Et j'ai commencé une des premières nouvelles qui s'appelait La nuée tombée des étoiles, est une histoire lovecraftienne dédiée à Auguste Derleff. Donc déjà, j'avais bien vu que Derleff était quand même un type plus sympa qu'on le pensait, et qui se passe en Afrique du Sud, où j'avais inventé ma petite entité locale, mon livre maudit local, enfin bon, le kit habituel de tout débutant lovecraftien. Et c'est rigolo à relire 35 ans après. Ah ouais, ça fait plaisir et tout. Et puis après, je l'ai réutilisé une autre fois dans un roman. C'est une série qui a servi à une table ronde l'an dernier, qui s'appelait Bled, où j'ai fait donc 43 romans, dont un lovecraftien. Je me suis dit, comme j'ai tout utilisé pour ces 43 romans, j'ai pêché de tous les côtés et tout comme ça, Lovecraft devait bien passer, enfin Cthulhu devait bien son mythe. Et là, j'avais inventé une énième entité du mythe de Cthulhu que personne ne connaissait sauf moi, bien entendu. Et en plus, c'est dans un univers parallèle, parce que Bled se passant dans un univers parallèle, donc c'était même pas une entité de chez nous, c'était du Cthulhu d'exportation. Qui s'appelait Chuba. Ça fait rire tout le monde. Souvent, on m'a dit, mais comment t'as trouvé un nom si ridicule pour un truc, pour une entité même d'un autre monde qui est liée à Lovecraft. Parce que j'avais des copains qui disaient, pourquoi t'as pas dit Chubidouba, par exemple, ça aurait été encore mieux et tout comme ça. Je me suis bien moqué de moi. Et puis en bande dessinée, alors là, j'en suis à trois utilisations. Dans un des Harry Dixon, j'ai fait un Harry Dixon là, de ma série chez Soleil, qui donc tu tournes autour d'un grand ancien qu'on connaissait pas, mais c'est une histoire. Donc là, c'est typiquement Harry Dixon dans le Londres des années 20, avec on retrouve un bateau en mer avec des choses pas catholiques à bord qui sont ramenées dans le port de Londres, et puis il se développe une espèce de culte. Là c'est du clin d'œil c'est plus que du clin d'œil, là c'est vraiment, j'ai fait une histoire lovecraftienne avec un grand ancien que j'ai rajouté à la liste là aussi, mais donc là c'est une utilisation vraiment volontaire. Et puis là je viens juste de sortir, il est ici, un album qui s'appelle 20 000 siècles sous les mers, toujours chez Soleil. Et c'est une suite en deux tomes à 20 000 lieues sous les mers, évidemment. Et là, c'est une utilisation, c'est un crossover entre l'univers de Jules Verne et celui de Lovecraft, où le capitaine Nemo, en fait, est infesté par les rêves de Cthulhu après la plongée du Nautilus dans le Maelstrom à la fin de 20 000 lieues sous les mers, au large de la Norvège. Il disparaît. Et qu'est-ce qui s'est passé là ? Ben, dans mon histoire, il se passe qu'il fait une espèce de traversée momentanée du continuum espace-temps, et en fait, malheureusement pour lui, le capitaine Nemo est vraiment infesté par les rêves de Cthulhu, qui infeste déjà beaucoup de monde, mais alors lui, il s'en prend une bonne dose. Et donc, le capitaine Nemo se retrouve avec le professeur Aronnax, cette fois-ci sur la piste de Hurley et de Cthulhu, pour en finir une bonne fois pour toutes, pour le compte de l'université de Miskatonic. Ah, ça, c'est là, je me régale, quoi. Je veux dire, je suis un crossover. Et puis le dernier cas, c'est une série dont une autre série de BD dont on est en train de faire le premier album qui s'appelle Démon, où là, ça se passe dans l'univers parallèle, médiéval, et les marins de l'Empire franc, puisque dans cet univers, l'islam n'a jamais existé, donc c'est l'Empire franc, l'Empire carolingien qui s'est vraiment installé sur toute l'Europe et qui envoie des explorations, enfin il y a des marins francs comme ça, et qui tombent sur les restes de l'Atlantide. Et l'Atlantide a été pas du tout détruite, mais tous ses habitants ont disparu. Et en fait, c'est parce qu'ils ont été victimes d'un démon qu'ils n'ont pas su contrôler. Et ce démon, c'est Dagon. Donc une autre vieille connaissance. Mais là, c'est juste, c'est juste pour les gens qui verront de quoi je parle, quoi. C'est pour le sport. Là. Donc on a là dans ces cinq petites utilisations, il y a cinq variations de ce qu'on trouve chez la plupart des auteurs comme type d'utilisation du mythe de Cthulhu. Quoi. Soit comme une allusion, soit comme un truc vraiment central à l'histoire, soit pour avec un clin d'œil, soit voilà. Quoi.
Et tes illustrateurs, puisque là tu parles en tant que
scénariste, oui.
Leur rapport à l'univers de Lovecraft.
Ah ben c'est-à-dire que par exemple pour 20 000 siècles sous les mers, Patrick Dumas est déjà un fan inconditionnel de Lovecraft. Il avait fait des dessins avant. C'est vraiment un fan pur et dur. Pour Harry Dickson, Olivier Roman, le dessinateur, connaissait comme ça. Quoi. Donc, il a regardé un peu ce qui s'était fait. J'ai expliqué, voilà. Et pour Démon, Michel Sureau, je pense qu'il connaît comme ça, sans plus. Voilà. Mais le vrai pur et dur, c'est Patrick Dumas, là. Celui qui fait 20 000 siècles sous les mers. Lui, il adore ça. Il m'a fait une université de Miskatonic absolument magnifique et tout, comme ça. Et il est là-dedans à plein, quoi, je veux dire. Voilà.
Alors, comment ça se passe pour les écrivains? Comment les écrivains arrivent à envoyer des textes, participent à des anthologies prétendument lovecraftiennes?
Que tu me tends bien la perche pour parler de ce qu'on a réalisé donc aux éditions Malpertuis dont je m'occupe, l'anthologie HPL 2007. Malpertuis, c'est pas très lovecraftien, mais quand on regarde bien chez Jean Rey, il y a des convergences quand même assez significatives. Oui, donc on a fait une anthologie qu'on a appelée HPL 2007, qui, comme son nom l'indique, est parue en 2007, à savoir 70 ans après la mort de Lovecraft. C'est une anthologie d'hommage. Donc on a lancé un appel ouvert pour demander à qui voudrait et à qui pourrait, faites-nous une histoire lovecraftienne et expliquez-nous, accessoirement, en question subsidiaire, expliquez-nous, Lovecraft, c'est quoi pour vous? Lovecraft et moi, en quelque sorte. Donc voilà, on a récupéré une vingtaine de textes, le haut du panier, je dirais, il y a toujours un petit peu le bas du panier qui est laissé de côté, hein, fatalement. Et là, on arrive effectivement à une palette très intéressante parce qu'on a, comme disait Richard Nolan, on a eu une espèce de catalogue des usages, je dirais, au-delà du mythe de Cthulhu, des usages de Lovecraft par un écrivain, un jeune écrivain ou un écrivain d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'être Lovecraftien ou de faire Lovecraftien aujourd'hui? J'ai fait une petite préface où j'ai essayé justement de décrire tout ça. Et on a des gens qui, bien sûr, vont nous faire un usage de Cthulhu, vont nous le mettre en scène directement, ou bien une autre créature Lovecraftienne, ou bien ils vont inventer la leur. Ou bien on a des gens qui vont carrément nous écrire une histoire avec Lovecraft comme personnage principal. Et puis, il va y avoir des choses un peu plus subtiles. Il y a des gens qui vont préférer récupérer un thème majeur de Lovecraft et puis construire une histoire autour de ça à leur manière. Donc ça peut être une histoire autour d'une créature marine, peut-être divine et menaçante. Une histoire autour de la fin du monde. Puisqu'il y a toujours des perspectives chez Lovecraft de destruction de l'humanité, de destruction de notre planète, qui est toujours évitée à la dernière seconde au prix de sacrifices intenses pour quelque temps. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme thème? Eh bien, on a des créatures diverses, des sectes maléfiques, des possessions, des choses comme ça. Et ça peut être parfois un simple mot. Donc on a un auteur qui a été fasciné par le mot pnakotique, puisque Lovecraft parle des manuscrits pnakotiques, qui sont censés être un manuscrit pré-humain, écrit dans un caractère indéchiffrable, sauf que, évidemment, certains savants de miscatonique en ont déchiffré des morceaux, et qui nous a écrit un texte autour d'un ami qui est pnakotique. Voilà, donc on voit que l'inspiration peut venir finalement de peu de choses, mais elle peut aller très loin, elle peut rayonner, elle peut rebondir sur, sur tout ce qui passe à sa portée, quoi. Je trouve assez intéressant de voir que Lovecraft, c'est quelqu'un qui a inspiré non seulement des auteurs de fiction, mais qui a inspiré des gens, génération après génération, qui a inspiré des gens à parler de lui, à faire des études. Je veux dire, on est là aujourd'hui, quoi. Avec aussi bien, il faut quand même le dire, pour ceux qui auraient un peu oublié, Joseph Altera, qui est un des je dirais, premier nom important en France à avoir parlé de Lovecraft et fait des études sérieuses à son sujet, tout de même. Tout de même. Et puis, d'autres gens qui sont venus un peu après lui. Et puis, ça peut aller jusqu'à des gens comme Michel Houellebecq, dont on oublie souvent, et il le rappelle pas trop lui-même d'ailleurs, mais qu'un de ses premiers bouquins a été un livre sur Lovecraft, vu à travers le prisme de sa vision personnelle. Extrêmement personnel d'ailleurs, on apprend plus sur Houellebecq que sur Lovecraft, mais c'est quand même quelque chose de significatif.
Alors on va rebondir sur cette autour de cette entreprise, parce que elle est quand même singulière. Hein. On a l'impression que les influences là, dans ce travail et les inspirations sont multiples. On ne peut pas s'empêcher de penser au jeu de rôle dans cette tentative de construire une encyclopédie, cette espèce de précision sur le nom des lieux, des personnages. Et pas seulement, on voit la liste des auteurs qui sont dans cette entreprise, il y a des gens, je dirais, d'imaginaires extrêmement différents. Comment ont-ils réussi à se fédérer sur un projet comme celui-là? Comment ça a fonctionné?
C'est une bonne question, ça. On est quatre là-dessus. Moi, je viens vraiment du monde du jeu de rôle. J'avais fait un premier opus dans la même collection sur un monde beaucoup plus holistique et médiéval fantastique. Et les trois autres sont tous romanciers, ils ont tous publié des romans ici ou là. Il y a David Camus, qui en parallèle d'avoir écrit ou traduit pour Kadat, a traduit Lovecraft, une nouvelle traduction des Contrées du rêve de Lovecraft, qui le méritait d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Il y a tout Démons et Merveilles, il y a une partie des nouvelles de Dagon qui sont dedans. Tout ce qui se passe dans le monde des Contrées du rêve, qui est d'ailleurs une partie de l'œuvre de Lovecraft qui est pas celle qui nous vient à l'esprit en premier. C'est plus de la fantasy que du fantastique. C'est un peu sa tentative d'héroïque fantasy, je dirais. Donc David Camus qui a retraduit Lovecraft et qui est devenu presque fou. Hein. Je crois d'ailleurs qu'il devait venir et qu'il n'est pas venu, donc je suis assez inquiet. Il était là ce matin, mais il n'est plus là. Donc c'est... Voilà, Laurent Pougeois, qui est un jeune auteur qui chez Mnemos aussi a publié un roman qui effectivement n'a pas grand-chose à voir avec Lovecraft de prime abord, mais qui a aussi publié dans des éditions de jeunesse une adaptation de Lovecraft, que malheureusement je n'ai pas retrouvée, mais qui doit être assez rigolote, je pense. Adapter Lovecraft et les tentacules pour les enfants, c'est une bonne idée, je trouve. Et le dernier, c'est une dernière, et ça, moi, j'y tenais énormément, parce que dans Lovecraft, l'honneur est très peu fait aux femmes. Il y a très, 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 très peu de personnages féminins, et en général, ils sont assez horribles. Donc j'avais vraiment envie de donner une voix féminine à cette visite, disons, de Kadat, la ville de Lovecraft. Donc c'est Mélanie Fazi, qui est une auteure qui vient du fantastique, qui a écrit ça. Donc effectivement, des gens qui viennent d'horizons assez différents. Comment ça s'est assemblé, tout ça? C'est assez magique, en fait. Hein. On a fait une seule réunion tous ensemble. C'est vrai, hein. On s'est vus individuellement les uns les autres un peu plus, mais on a fait une seule réunion tous ensemble, on était tous dans Lovecraft, enfin, je crois qu'il n'y avait pas de... La pensée, disons, du maître était sur nous, même sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et donc chacun est parti de son côté, a écrit des choses, et moi j'ai assemblé tout ça et redécoupé, en fait. Hein, il n'y avait pas d'intention éditoriale très très forte au départ, mais tout s'est assemblé naturellement derrière, donc... Peut-être pour rester dans le thème du débat, l'héritage de Lovecraft, pour moi, c'est vraiment ça. Il y a une cohérence incroyable qui naît juste de l'œuvre du maître. Alors évidemment, on a tous relu les nouvelles de Démons et Merveilles et de Dagon intensément avant de s'y mettre. Hein. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais...
Si, sa réponse, ça veut dire qu'à la limite, hein, sans critiquer le travail qui est là, on pourrait se dire que dans 20 ans, notre groupe peut recommencer et refaire... refaire un cadastre. C'est étonnant comme le nom de Lovecraft évoque tant de choses. J'avoue, pour moi, c'est assez surprenant. J'ai longtemps pensé que ce serait un monde qui resterait quand même relativement limité. Et en fait, non. On s'aperçoit que beaucoup de d'auteurs jeunes ou moins jeunes l'ont lu, pas tous de la même manière, mais c'est tout le temps un déclic. Même d'ailleurs pour s'en écarter. Des fois, on dit oui, ah, mais Lovecraft, non, voilà, j'ai lu, mais j'aime pas trop, etc. C'est assez marrant. C'est devenu une sorte de presque d'outil de mesure. On s'y retrouve. Hein. On s'y retrouve. C'est assez étonnant. Et de fait, les monstres Lovecraftiens, qui sont généralement dont les descriptions sont parfois précises, parfois pas du tout, finissent par devenir des personnages, je ne sais pas, aussi connus que Mickey ou Tarzan. On parle de Cthulhu presque comme on parle du personnage de Tarzan. Enfin, on peut le. Tu parlais tout à l'heure de cette tentative de biographie, c'est très curieux. Ça a créé, il a réussi, Lovecraft a réussi à créer, je pense qu'il ne l'a vraiment pas fait exprès d'ailleurs en plus, hein, toute une série de noms, de mots, d'atmosphères qui sont devenus, qui sont réutilisables. D'ailleurs, tout le monde ne met pas la même chose derrière, c'est ça qui est assez curieux, mais on dit, ah. À Lovecraft. Pourtant, ça fait penser à Lovecraft. Je suppose que dans tes travaux, dans tout, tu as été très surpris des textes, de certains textes que tu as reçus.
Bien sûr. Autant on n'est pas surpris de voir Lovecraft ou de voir des ghouls ou des monstres lovecraftiens dans un texte, autant parfois quand on voit ce que certains ont été cherchés. Et puis là, bon, ce qui tient lieu d'instrument de mesure ou de détecteur, c'est forcément la subjectivité de l'anthologiste. Et l'anthologiste, il fait, il dit, ah oui, c'est bon, c'est dedans, quoi, c'est lovecraftien. On y va. Et effectivement, des histoires de créatures éthérées qui ne sont qu'une odeur ou qui ne sont qu'une sorte de flaque d'eau, mais qui n'a pas de consistance et qui n'a peut-être même pas d'existence. Enfin bon, ça peut aller très loin, quoi.
Je peux en dire sur. Il y a une chose qui est intéressante. On a tous évoqué Cthulhu lui-même. C'est un peu le seul qui est vraiment décrit dans l'œuvre de Lovecraft. Avec toutes ses caractéristiques physiques très précises, ses tentacules sur la figure, ses ailes et tout ça. Donc je pense qu'une des grandes forces de Lovecraft, c'est d'avoir à la fois montré jusqu'au bout une de ses créatures et puis à la fois laisser passer un doute incroyable sur tout le reste.
Je crois qu'on va peut-être laisser la parole au public s'il veut poser quelques questions aux écrivains, scénaristes qui sont autour de cette table.
La réponse est oui, et bon, vous verrez si vous le lisez, c'est vraiment une mise en abîme complète. Je prétends l'avoir rencontré, Lord Dunsany, là-dedans, dans les contrées du rêve. Donc oui, complètement. Complètement. J'ai relu le peu qui est disponible en France de Lord Dunsany pour cette occasion-là. Et on fait même un parallèle très très fort avec Lovecraft en disant que Lovecraft l'a rencontré aussi dans les contrées du rêve, des choses comme ça. Oui, complètement. Je crois que vous avez complètement raison. Et néanmoins, c'est dans la même nouvelle, les marins le voient, Cthulhu à la fin, mais ce n'est pas à ce moment-là précis qu'elle est décrite. C'est plutôt dans la nouvelle, au moment des créatures. Je crois que d'ailleurs, historique, enfin, dans la bibliographie, je crois que c'est l'appel de Cthulhu est un des premiers textes qui vraiment initie ce qu'on appelle le mythe de Cthulhu aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, il a fait cette tentative de décrire, et puis après, il a dû se dire non, c'est mieux si on décrit moins. Et
rajouter un petit truc. Effectivement, c'est très juste ce que vous dites. Et bon, c'est pas pour passer du cirage à Lovecraft, mais pour moi, ça illustre bien son art d'écrire, que d'ailleurs il a développé dans certains textes. C'est-à-dire que là, il va faire une description précise dans un but précis, qui est cet aspect muséologique, scientifique, un rapport. Quelqu'un a rêvé d'une scène, il en a fait un bas-relief, et on va le décrire dans un rapport d'une manière très précise. Bon, je voudrais quand même corriger un peu cette idée de non-description. Il y a un texte où Lovecraft recommande, quand on écrit de la fiction, recommande de d'abord écrire un synopsis dans l'ordre dans lequel les événements se sont déroulés, avant d'ensuite de tout bouleverser et chambouler si on en a envie, pour que la narration soit plus intéressante. Et d'autre part, il y a un autre texte, je ne crois pas que c'est le même, dans lequel il dit que même si l'auteur ne décrit pas exactement ce qui se passe ou ce que le personnage voit, il faut que le lecteur sache ou comprenne implicitement que l'auteur sait ce qui se passe. Il ne faut pas, et Lovecraft s'accuse lui-même d'avoir fait ça peut-être à certains moments de sa jeunesse, et il en accuse d'autres auteurs, c'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un dit « Ah, c'est indescriptible », et en fait, tout ça parce que l'auteur ne s'est pas donné la peine d'imaginer précisément ce qu'il jugeait indescriptible. Donc, au niveau conviction, c'est faible. Donc, effectivement, il faut bien avoir en tête que l'absence ou le faible nombre de descriptions précises a quand même pour revers une image dans la tête de Lovecraft qui est parfois précise, au point qu'il avait fait des schémas et des croquis de certaines de ces créatures. On sait qu'il y a un croquis de Cthulhu qui n'est pas très beau d'ailleurs, mais enfin, on sait qu'il en avait une image en tête. Il y a une image des créatures, des grands anciens, des montagnes hallucinées, qu'il avait dessinées comme une espèce de créature,
de
mélange d'holothurie et de zooplancton, enfin bon, chose dont il avait trouvé l'inspiration dans des ouvrages scientifiques, puisque c'était un grand amateur de science. On sait que les goules du modèle de Pickman, il avait aussi essayé de les dessiner, qu'il a fait un croquis de la lande foudroyée qui a dans la couleur tombée du ciel. Donc toutes ces images-là, il les a en tête maintenant. Il va les communiquer à son lecteur dans la mesure où c'est indispensable, dans la mesure où il faut que le lecteur le voie, et il a un sens de la mise en scène dramatique, effectivement, qui fait que dans l'appel de Cthulhu, on va côtoyer les choses de manière très indirecte et en commençant de la manière la plus extérieure possible, et que finalement, à aucun moment, il y a un narrateur qui dit directement au lecteur « Moi, j'ai vu le monstre ». C'est toujours vu par journal intime interposé, par coupure de presse interposée, etc.
Je crois qu'il y a aussi une astuce de l'auteur, qui est plus qu'une astuce, qui est une façon de travailler très subtile, qui est que selon le récit, peut-être même j'aurais tendance à dire selon le lecteur qui l'attend, il va se livrer à une description précise, comme celle qui fait effectivement des créatures de montagnes hallucinées, qui sont mortes par ailleurs. On les voit bien décrites, mais elles sont mortes. Là, on a une description scientifique très, très, très technique. Très... Et puis, par ailleurs, quand elles sont en action, si on peut dire en action, là, la description sera tout à fait différente. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs plans de description, selon qui regarde aussi, hein, selon le moment où on regarde, la circonstance, le type de description sera ou très précis, ou très scientifique, ou au contraire, très... un recul complet, enfin, une impossibilité de description. Et il joue beaucoup là-dessus, c'est très astucieux. D'ailleurs, on peut coincer n'importe qui en lui faisant lire différents textes de Lovecraft, en lui demandant de les classer chronologiquement. Ça ne va pas être facile, parce que ça va vraiment dépendre pas forcément de son évolution à lui immédiate, mais aussi de dire, il faut plutôt demander à qui il donne ses textes, hein, plutôt que d'essayer de les classer chronologiquement, parce que c'est assez compliqué. Quand on s'amuse à comparer, il y a des textes qui sont difficilement comparables, et pourtant on les met dans la mythologie de Cthulhu au prétexte qu'il y a un nom qui de dieu ou de démon un peu bizarre. On dit, allez, ça c'est dans la mythologie de Cthulhu. Ouais, bon. Enfin, si on lit l'ensemble des textes, on s'aperçoit tout de même que le ton est souvent très différent. Hein. C'est très curieux. C'est aussi un rêve raconté. C'est-à-dire que là, à chaque fois, il est assez malin. Les moments où il est le plus précis ou finalement le plus indiscutable, c'est quand il décrit des créatures mortes. Ça, c'est là, on est tranquille, ils sont morts. Donc on peut décrire et tout. Après, lorsque les créatures vivent, sont actives, bon, les descriptions, c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. C'est beaucoup plus... C'est différent. Je crois qu'il le fait exprès. Il connaît bien ses collègues des pulps, qui souvent, il faut le dire, écrivent de manière plus directe. Et lui, il fait attention à ça. Il a une subtilité
dans la manière de présenter les choses que n'ont sans doute pas, je veux un peu appel à toi là-dessus, beaucoup de ces contemporains qui sont plus directs dans leur manière de décrire dans la littérature de Pulse par nature.
Ben, c'est-à-dire que Lovecraft avait déjà un style particulier. Donc, ce qu'il différenciait comme d'autres auteurs, Clark Ashton Smith, par exemple, des gens comme ça, avaient eux-mêmes... il n'avait pas un style qui était typique des pulps, effectivement. Il est tellement personnel, tellement... Il y a des fois des telles contorsions littéraires. Que, d'ailleurs, à ce propos, dans L'Abîme du Temps, quand c'était sorti dans Astounding, il avait été un peu rewrité par-ci, par-là, par John William Campbell. Donc la version de Pulp n'était pas celle qui est sortie chez Arkham House. Derleff, il est arrivé aussi un peu de retoucher des choses qu'il trouvait. Et finalement, les vraies versions des textes de Lovecraft, il n'y a pas bien longtemps qu'elles ont été mises sur le marché, les manuscrits vraiment originaux. Mais c'est vrai que Lovecraft n'avait pas un style d'auteur de Pulp. Et c'est peut-être aussi pourquoi il était resté un auteur secondaire des Pulps. Malheureusement, c'est après sa mort qu'il a acquis une renommée qu'il n'avait jamais eue de son vivant. Donc, c'est un auteur. Il était atypique, de toute façon, entre les façons, les rêves et les rêves qu'il recopiait le matin pour faire des histoires. Et il faisait tellement de rêves qu'il en cédait à d'autres auteurs. L'horreur venue des collines, par exemple, de Frank Beckla Plong, qui est un court roman du mythe de Cthulhu, un des premiers. C'était Lovecraft a envoyé, je ne sais plus, 20 ou 30 pages qu'il a écrit le matin à toute vitesse à Long pour lui dire « Écoutez, si ça vous dit quelque chose, voilà, j'ai rêvé ça. » Et donc, c'était pour ça, il n'était pas du tout typique du milieu des pulps.
D'autres questions ? Éléments. Il y a notamment une révision avec tout un monde souterrain et une espèce de dieu aztèque dont le titre vient bien sûr de m'échapper. C'est le tertre, oui. Il y a celui-là qui me vient à l'esprit, mais je vois, il fait quelques allusions par-ci, par-là. De toute façon, Lovecraft, il pratique la méthode qu'il a pratiquée dans la nouvelle L'Appel de Cthulhu, hein. C'est quelqu'un qui lit beaucoup et qui découpe des coupures de journaux, qui note quelques éléments et qui ensuite fait beaucoup de collages, en fait, hein. Il construit des civilisations anciennes par collage, hein. Il prend des morceaux. On peut arriver à retrouver, en cherchant beaucoup, certaines inspirations. Il y avait, on avait retrouvé des Michel Meurger, dans un essai consacré à Lovecraft, avait trouvé un très joli bas-relief qu'on aurait très bien pu confondre avec une authentique description de Cthulhu, hein. Et c'était un truc effectivement, alors sud-américain, très sincèrement je ne me rappelle plus de quel coin. C'est vrai que cet imaginaire du monde évidemment américain, amérindien, enfin disons avant Christophe Colomb, précolombien, évidemment beaucoup plus prégnant chez un Américain du temps de Lovecraft que chez nous. Hein. Il y a beaucoup plus de tas d'éléments archéologiques mystérieux qui sont plus marquants pour les Américains de son temps que pour nous, Europe, avec tout notre passé bien grandiose, grec, égyptien, etc., tout ça très, très bien vu. Eux, ils ont un passé mal, déjà pas le leur, enfin qui est pas celui des nouveaux habitants, en tout cas, et qui est difficile à décrypter. On n'a pas beaucoup de textes, il y a des ruines bizarres, il y a des tertres qui sont l'objet d'études et de discussions entre savants sérieux et archéologues romantiques. C'est un monde... plus bizarre.
Les cultes sanguinaires des Aztèques et des Mayas, c'est du bon terreau pour faire un raccord éventuel avec des dieux de la mythologie de Cthulhu.
C'est plus difficile avec nos mythes.
Oui, c'est ça. C'est plus facile de faire un crossover entre ce qui se passait sur les pyramides mayas et puis un culte mystérieux et d'origine lovecraftienne. Enfin, c'est plus simple aussi. D'ailleurs, c'est bizarre que ça n'ait pas été fait plus souvent parce qu'on pourrait faire une connexion entre les deux. C'est pas difficile quoi d'imaginer que les dieux mayas soient des agents du chaos rampant ou pas rampant. Ils ont tout ce qu'il faut pour l'être, alors que c'est vrai que que ce soit la mythologie grecque, latine, ou ça convient moins quoi. C'est beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus violent, beaucoup plus rustique quelque part. Toutes ces mythologies d'Amérique centrale, et ouais, ça convient mieux quoi.
D'ailleurs, à feuilleter ce travail, justement, j'allais dire l'influence, alors avec des espèces de gros guillemets autour d'architecture ou de mythologie amérindienne, n'est pas flagrant. Ça me saute pas immédiatement aux yeux. Maintenant, il faut regarder l'exposition, il faut regarder de plus près. Hein. Ça vous a passé par la tête, ça, ou pas du tout?
Je vais laisser travailler l'illustrateur en roue libre. Il y a une pyramide aztèque qui est cachée quelque part, mais elle est peu illustrée. Non, il y a un peu de tout en termes de... Il y a beaucoup d'éléments architecturaux, de pas mal de mythologies qui se sont faufilées là-dedans. Hindou aussi, par exemple.
Ah oui.
Il fait des allusions à un peu tout, hein, Lovecraft. Il y a énormément d'allusions, les Inuits, ça va loin.
Un aparté, c'est en Polynésie, on a retrouvé des ruines mégalithiques. Il y a des îles qu'on considère comme des espèces de Stonehenge polynésiens. Et ça donne, je pense qu'elles étaient déjà connues du temps de Lovecraft, il avait dû en entendre parler. Mais c'est des choses que le grand public ne connaît absolument pas. Et qui donne une consistance justement à toutes ces allusions qu'il fait au culte barbare et mystérieux des îles. Et en fait, ça reposait sur quelque chose, quoi. Il y a des traces archéologiques. De toute façon, le mégalithe, c'est bien à Lovecraft en général.
Les mégalithes
sont
déjà utilisés dans le contre de la Lune.
Mais c'est très peu connu. Pardon, c'est très peu connu du grand public, même maintenant. Alors qu'il y a une source d'inspiration là, et de mystère, parce que la plupart du temps, on ne sait pas d'où viennent ces civilisations qui ont laissé donc des choses de type Stonehenge, quoi, au beau milieu du Pacifique.
C'est tout à fait juste, sauf que ça, alors c'est un truisme que je dis, mais il a fallu le construire. C'est-à-dire que c'est pas si flagrant, c'est flagrant aujourd'hui quand on lit un recueil de nouvelles de Lovecraft. On dit ouais, il y a, en plus on a déjà entendu parler des trucs. Alors Necronomicon, ah ça y est, il parle du Necronomicon. Souvent, je m'aperçois que pour des lecteurs d'aujourd'hui, de toute façon, ils ont déjà entendu parler des jeunes lecteurs. Ils ont déjà entendu parler du Necronomicon. Ils savent déjà que ça existe. Enfin, ça existe, on se comprend. Ils ont déjà les mots et les noms, ils les connaissent déjà. Et donc, ils vont les retrouver. Ah ben oui, ils sont là. Ben oui. Ce qui est intéressant à se demander, effectivement, c'est on disait un petit peu au début, c'est que je ne pense pas du tout que Lovecraft avait ça en tête, clairement. Il l'a fait un peu par-ci, par-là. Et c'est très certainement dans les discussions avec ses amis et ses copains qui lui envoyaient un bout de nouvelles en disant ouais, qu'est-ce que tu dirais, tu pourrais te faire une histoire en reprenant ton truc là. Ah, mais oui, mais si ça te plaît, vas-y, tiens, d'ailleurs, je t'envoie 30 pages de rêve là, ça va t'aider, etc. Et ça marche comme ça. Ça s'est construit. Je pense pas du tout que lui avait tellement réfléchi à ça. C'est, honnêtement, je pense que cet aspect-là est peut-être une création collective.
Hein, je pense que ses amis l'ont même poussé à. Mais tu devrais nous reparler de trucs. Et le Necronomicon, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Il y a un truc comme ça. D'ailleurs, il y a eu une fausse annonce. Ben, la première lettre, je crois que c'est une lettre qu'envoie c'est James Blish, je crois, James Blish qui envoie une lettre à Lovecraft, jeune fan, donc James Blish. Grand auteur de science-fiction, et on sent qu'on n'a pas tous les échanges. À un moment donné, Lovecraft lui répond en disant « Mais enfin, grand Dieu, j'avais cru comprendre que vous étiez rendu compte que je plaisantais. » Parce que le Blish l'avait écrit en disant « Oui, il y a des annonces qui disent qu'on peut trouver le Necronomicon en vente pour tant de dollars. » Évidemment, on n'a pas les réponses de Lovecraft qui avait dû répondre « Mais oui, bien sûr, recommandez-vous de moi, vous aurez un prix, etc. » Et certainement, bon, voilà, il a fallu qu'il mette les points sur les i pour le tout jeune homme qui écrivait, qui croyait qu'on pouvait effectivement acheter le Necronomicon. Mais je pense que, alors oui, ça joue énormément maintenant, mais c'est un truc qui s'est fabriqué petit à petit, mais qui n'était visiblement pas prévu au départ. Hein. Alors maintenant, c'est devenu des Necronomicon, on en achète. Il n'est pas dans la salle, là, mais Philippe Marlin est un collectionneur de Necronomicon. Il faut voir ça. Ah, mais il est là. Ouais, il est là. Il y en a là-bas. Oui, oui, il y a. Oh, oui. Il y a un Necronomicon en peluche. Il faut arriver. Oui, oui, mais Necronomicon. Oui.
En peluche. Ouais. D'ailleurs, je m'en bien s'il file là pas. D'ailleurs, il faudra voir ça. Oui, on l'a vu sur Internet. Oui, c'est deux pages comme ça. La peluche qui rend fou, sans doute.
Ouais, bien, c'est un phénomène, je pense, récent. Hein,
mais dès que tu lues rigolo, dès que tu lues comique, c'est vraiment rigolo. D'ailleurs, on disait tout à l'heure quel était finalement le nom de l'univers de Lovecraft qui était le plus connu. Ben, y a Cthulhu et il y a le Necronomicon. Ouais, Necronomicon, mais il y a des tas de gens qui ne savent même pas que c'est de Lovecraft, mais ils connaissent le Necronomicon parce que ça circule dans des mangas, ça circule dans des films.
Il y a des gens qui savent, ça n'existe pas, mais ils ne savent pas que c'est de Lovecraft.
Oui, voilà.
C'est quand même fort.
Et ça circule partout, quoi. Ça, encore plus, parce que c'est plus facile à faire circuler.
Oh, il n'y a pas que celui de Colin Wilson, mais c'est vrai que celui, comme il a été traduit en français, ça tombe bien. Il est plus connu par les Français. Mais il y en a des dizaines, je ne plaisante pas, de Necronomicon. On a un spécialiste derrière. Des Necronomicon, pourquoi pas, et pourtant c'est pas tellement le monde, c'est pas l'imaginaire lovecraftien, le tarot a priori, mais ça fait rien. Japon, oui, hélas, il y en a au Japon. Non, j'exagère un peu, mais il y a quand même des choses qui dépassent en abomination tout ce que l'imagination de Lovecraft avait cru pouvoir concevoir, il faut bien le dire. Oui, non, mais il y en a partout, alors je ne suis pas trop. Voilà, je ne suis pas très compétent, mais je sais qu'au Japon, malheureusement, oui.
Oui, vas-y. Oui, en Allemagne, c'est un auteur qui est traduit maintenant, qui avait commencé dans la collection qui s'appelait Oriflamme. Tu te rappelles où il y avait tout.
Comment?
Holbein, voilà. Et lui, il a vraiment utilisé souvent cette histoire, ce Salem. Là. Il y a des volumes non traduits, c'est Jean-Michel Archimbault là, qui m'en avait parlé, là, où on trouve Dagon. Enfin, il est bien branché là-dessus. Quoi, là. Mais je suis sûr qu'en cherchant bien. C'est pas possible que Lovecraft, enfin, ayant été traduit en espagnol, en italien et tout, il y a certainement, c'est juste notre barrière de la langue qui fait que. Ouais, mais il y a sûrement des spécialistes qui vont nous dégoter ça. Quoi. Oui, tu veux pas écrire un livre sur une encyclopédie sur toutes les traductions jusqu'en polynésien
Tu veux pas me faire un chapitre Je voulais dire une remarque sur. Tous les fascicules qui ressemblent pour le public qui ressemblent aux fascicules Péri-Rodan, sauf que là c'est du ça, fantastique,
c'est
de l'horreur.
Vampire,
voilà.
Ouais. Ah bah, oui. Avec des catcheurs. Oui. Des catcheurs en masque.
Et la bande dessinée, Christophe, la bande dessinée italienne, comment il s'appelle, le petit groupe de justiciers de l'étrange, cette bande italienne. Oui. Il y a forcément des illusions de Kraftel là-dedans. Ça ne me revient plus parce que je n'ai pas lu assez, mais c'est réexploité systématique. Oui. Et ça ressort partout. C'est devenu une marque. C'est une espèce de signe de ralliement, de clin d'œil aussi, pour des gens qui écrivent de la littérature, qui est souvent... Alors oui, il y a une question qu'on ne s'est pas posée là, mais qui ne nous intéresse peut-être pas, nous. C'est la question de littérature sérieuse et littérature pas sérieuse. À partir du moment où on écrit des textes et où tout d'un coup on va mettre un nom Lovecraftien, etc., on va être immédiatement reconnu par tous les autres. Ah oui, tiens, ouais, chouette. Par contre, il y a des gens qui vont dire, qu'est-ce que... Oui, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tout d'un coup, le texte va être, entre guillemets, moins pris au sérieux, si on veut faire du texte littéraire. Alors oui, la preuve, Houellebecq a écrit on s'avance dans des sentiers compliqués, mais on a le droit de faire des allusions lovecraftiennes, je pense, dans un texte qui se veut de la littérature entre guillemets sérieuse. Enfin, ça reste risqué comme plan. En général, c'est plutôt du clin d'œil à une forme de littérature plus, on va dire, plus autre littérature, plus une littérature, lâchons le mot, une littérature de distraction, plus qu'une littérature qui se veut de très haute qualité intellectuelle et littéraire. Voilà. On est quand même. Je ne voulais pas dire le terme littérature populaire, parce que je pense que ça ne va pas dire grand-chose aujourd'hui. Mais enfin, on n'est pas dans le domaine de la littérature sérieuse quand on fait ça. Hein. Voilà, il faut assumer. Hein.
J'assume complètement, mais imagine un roman de Marc Lévy où d'un coup il rencontre la chèvre aux mille petits ou un truc comme ça. Hein, c'est... Ouais, non. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est marqué, c'est typé, mais ça fait partie des innombrables littératures qui sont typés par leur sujet, mais c'est vrai que les noms lovecraftiens, pour qu'ils soient lovecraftiens, il faut qu'ils soient vraiment spéciaux. Il y a une saveur, il y a une sonorité qui est typique là aussi. On ne peut pas écrire, inventer un nom sans qu'il y ait des références. Et les livres maudits de Lovecraft, des amis de Lovecraft et des amis de Lovecraft et tout. Il y a de quoi monter une bibliothèque entre tous les livres qu'il ne faut pas lire. Sinon, on pète un câble, on devient fou, on est transporté dans un autre univers. Mais c'est très rigolo. Et puis les titres des livres sont pas mal aussi. Enfin, dans une bibliographie à la fin d'un article, ça fait bien de citer Von Jones, des gens comme ça.
Oui, on ajoute. Hein. D'autres questions ? Puis on va peut-être terminer. Remarque ? Oui ? Non, ça c'est... Oui, ça je crois qu'on l'avait souligné tout à l'heure. Non, là vraiment, je pense qu'on peut vraiment dire que c'est une sorte de fabrication. Le mythe de Lovecraft, c'est une sorte de fabrication collective, hein, d'amis, d'imitateurs, d'admirateurs. Ensuite, ça prend une ampleur commerciale. Oui, oui.
En fait, il y a d'ailleurs,
oui, c'est le cas de le dire. Oui. Non, il n'y a plus de. Plus personne ne croit à la construction carrée et solide de la mythologie lovecraftienne, si tant est que personne ne l'ait jamais cru. C'est même un mauvais procès, je pense, qui avait été fait ou à Derles ou même à des imitateurs assez talentueux comme Brian Lumley. Hein, c'est vrai que Brian Lumley, quand on dit Brian Lumley, pas dans certains très bons textes. Il y a quelques très bonnes nouvelles de Brian Lumley. Mais dans ces séries de romans, ça vient, les créatures lovecraftiennes, ça vient ploum-ploum un peu. Hein. On a l'impression que chacun, on peut leur mettre le truc avec la photographie de la police là, anthropomorphique, en disant oui, il est comme ci, comme ça. Oui, bon, on n'est plus tellement dans l'ambiance. Oui, il y avait les guides, voilà. Guides, ça, c'est pour les... Voilà, oui, oui. Voilà. Qui ont besoin d'une structuration. Les jeux de rôle ont forcément besoin d'une structuration plus grande, dont une nécessité, ouais, de...
Ça,
Voilà. Alors après, ça a trompé un peu des lecteurs qui se sont dit « Ah oui, mais c'était construit super au cordeau comme ça. » Mais non, c'était pas construit au cordeau. C'est pour les jeux de rôle qu'on s'est amusé à faire des dessins, des descriptions. Tu peux d'ailleurs nous en parler.
Je crois que le Panthéon Lovecraftien, c'est bien avant que les jeux de rôle existent, que des gens l'ont structuré, les gens du jeu de rôle l'ont... Mais voilà, exactement. Par contre, les illustrations, c'est clair. Oui. Ouais. Peterson, c'est l'auteur du jeu de rôle. Peterson, c'est l'auteur du jeu de rôle de Cthulhu, mais c'est pas
la personne qui se rappelle du nom des dessinateurs.
Il y avait des figurines aussi. Il y avait, donc, et ça a pris cher quelque part. Quoi, que oui, c'était plus. Oui.
Rajouter un petit truc, c'est dans cet ordre d'idées de personnes prétendant que la mythologie lovecraftienne avait été construite justement au carré, avec régularité, etc., il y a eu, bon, on n'en entend plus trop parler, mais il y a eu, il y a quelques décennies, une tendance qui consistait à dire que si cette mythologie est tellement détaillée, tellement précise, tellement complète, c'est parce qu'en fait, Lovecraft ne l'a pas inventée, il l'a perçue. Donc il était une sorte de... il était une sorte de médium... Qui recevait par des canaux mystérieux des communications de l'au-delà, et il y avait des gens, enfin, je ne sais pas si on peut dire très sérieux en parlant d'occultistes, mais disons le plus proche équivalent de gens très sérieux qui faisaient des articles très doctes pour dire qu'il y a des cérémonies dans des cultures très lointaines dont le lecteur n'avait souvent jamais entendu parler, et où en prenant certaines drogues, les opérateurs ont contact avec des entités venues d'ailleurs, etc. Et c'est peut-être ce dont Lovecraft avait entendu parler et que lui-même avait, etc. Donc beaucoup, beaucoup d'hypothèses. Bon, je crois qu'on peut le dire, aujourd'hui, hein, les créatures lovecraftiennes n'ont pas d'existence réelle. Voilà, c'est à peu près démontré.
Ah bah oui, il est devenu personnage de feuilleton même.
On n'a que des témoignages, ceux qui sont appréciés, ceux qui ont vu ça fois, s'ils n'ont pas vu quelque chose d'indicible que leur cerveau n'a pas fait.
Écoutez, je vous remercie.
Voilà, merci. Et est-ce qu'il y a des continuateurs de mythes de Cthulhu dans les pays italo-sémitiques ou mongoloïdes?
Ben oui, mais ils sont l'ambassadeur.
Est-ce qu'il y a des jouets de bain en forme de Cthulhu qui font poète?